Bienvenue au 28e épisode de Litteramour avec Sigrid Brinkmann. Le 24 octobre 2023, Leyla Sebar fut l'invitée du Frankreich-Zentrum de la Freie Universität Berlin. Ulrike Schneider, professeure à l'Institut de Philologie Romane, et son assistante Marie Jacquier m'avaient invité d'animer un entretien avec l'écrivaine qui publie des récits, des romans et des essais depuis bien 40 ans. Née en Algérie, Leyla Sebar est venue, très jeune encore, faire des études en France, à Aix-en-Provence, en 1961. C'était l'année où la Seine était rouge, pour citer le titre d'un de ses livres. Dans ce livre, elle parle d'une très grande manifestation d'Algériens à Paris, le 17 octobre 61. La police avait suivi les ordres de Maurice Papon et chassé les immigrés. Plusieurs centaines sont morts dans les rues et dans la Seine. Papon restait préfet de police. Il était ensuite élu député de l'Assemblée nationale, après ministre, avant d'être jugé pour ses crimes pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment la déportation des citoyens juifs. Depuis 2012, le massacre du 17 octobre 61 est reconnu officiellement. Les meurtres ont longtemps été taboués. J'ai demandé à Leyla Sebar quand est-ce qu'elle a compris l'ampleur du crime et quand est-ce que le besoin d'écrire là-dessus s'est-il manifesté.
Oui, alors à propos de cette journée du 17 octobre 1961, moi j'étais à Aix-en-Provence, pour des études de lettres, et j'avais complètement oublié l'Algérie. L'Algérie ne m'intéressait pas. Je n'avais pas fui. Je veux dire, j'étais envoyée par mes parents en France pour continuer des études supérieures de lettres. Donc, moi, j'obéissais. Et cette journée du 17 octobre, je ne l'ai connu et entendu que plus tard, parce que j'ai été amnésique de l'Algérie, de mon pays natal, pendant des années. Enfin, je ne sais plus quelle est la date de La Seine était rouge, qui retrace, qui est une sorte de récit-fiction, qui retrace cette manifestation du 17 octobre à Paris. Mais je ne sais pas, je ne sais plus quand ça a été publié. Et c'est au moment où l'Algérie a fait retour qu'elle ne m'a plus quitté. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ma mort, je pense.
Je voudrais qu'on regarde de près vos années d'enfance et de jeunesse en Algérie. Vos parents, René Borda et Mohamed Sebar, étaient tous deux professeurs de français et directeurs d'école. Votre mère ne parlait pas l'arabe et le père ne parlait pas sa langue maternelle avec vous. Il n'a rien fait pour que vous l'appreniez. Plus tard, vous écriviez que tout ce qui vous a été donné, c'est, et je cite, « le paysage d'enfance ». Ce paysage dans lequel l'enfant circulait, à quoi ressemblait-il ?
Un paysage algérien.
Pour ceux qui ne connaissent pas ce paysage, comment il est ?
Pour eux. Je veux dire, ils peuvent le connaître à travers des films, à travers des photos et à travers tout ce qu'on a appelé la peinture orientaliste. Parce que les peintres, les écrivains, au XIXe siècle, étaient très friands de paysages exotiques. Et l'Algérie, qui n'était pas loin de la France, a reçu nombre de peintres orientalistes et de grands peintres orientalistes. Vous connaissez Eugène Delacroix, vous connaissez Fromentin, vous connaissez Chassériau, enfin bon. Et grâce à eux, vous pourriez savoir ce à quoi ressemblait l'Algérie. Ça a changé un peu,
mais pas tant que ça.
Et où se situaient les limites de votre paysage d'enfance ?
Pour moi, quand j'étais enfant, elles étaient nombreuses. Les filles en Algérie, à ce moment-là, les filles de toute confession ne sortaient pas. Ou elles sortaient accompagnées, soit d'un membre de la famille, soit entre elles, soit avec les femmes quand elles allaient au bain mort. Donc, moi, je ne suis pas sortie seule dans mon enfance, dans le village où mon père était directeur de l'école. C'était un petit village près de Tlemcen. Tlemcen, c'est une très belle ville à l'ouest d'Oran. Et moi, je voyais peu de choses. Je voyais peu de choses. Et avec mes sœurs, j'ai un frère aîné et deux sœurs plus jeunes que moi. Et toutes les trois, on allait à l'école de filles du quartier européen. Parce que en Algérie existaient des quartiers indigènes, des quartiers arabes ou kabyles, qui étaient des quartiers pauvres et qu'on appelait, alors ça c'est sur les cartes postales qu'on les voit encore, enfin on voit encore cette appellation, quartier nègre. Donc il y avait des quartiers nègres dans un certain nombre de villes, ça voulait dire quartier arabe ou kabyle, quartier indigène, quartier pauvre, quartier dangereux. Déjà, comme les banlieues aujourd'hui. Je fais ce rapport, je ne sais pas s'il est opportun.
En 1954, la guerre d'indépendance commençait. Était-ce le moment où l'enfance se terminait pour vous ?
Est-ce qu'en 1954, ça se termine, hein, mon enfance ? Je sais pas, j'ai jamais pensé ma vie comme ça. Je me suis jamais dit mon enfance se termine en 1954, non ? Mais...
Je veux dire, peut-être enfance, disons, une certaine naïveté, peut-être une certaine... innocence, mais je veux dire, si j'imagine une guerre éclate, ça c'est une sacrée rupture, une césure, non ?
Bien sûr, bien sûr. À partir du moment où la guerre d'Algérie se manifeste, donc en 54, je suis en pension jusqu'à la fin de la guerre. Donc en pension, ça veut dire dans des collèges et lycées de filles, parce que c'était séparé. À cette époque. Et j'en parle dans certains textes de ces années de pension où je n'ai pas été heureuse du tout. Parce que j'étais entre les filles arabes, je dis arabes parce qu'on ne disait pas encore algérien à l'époque, les filles arabes et les filles françaises. On ne disait pas encore non plus, à ce moment-là, pied noir. Le mot pied noir est arrivé, personne ne sait très bien comment, dans les dernières années de la guerre, en 60-61, à peu près. Donc avant, ce mot-là n'existait pas. Et quand on parlait des arabes, ou des kabyles, c'est-à-dire des musulmans, on disait les indigènes. C'est approprié, puisque les indigènes sont les premiers habitants d'un pays, bien sûr. C'était les autochtones. Les autochtones, c'était difficile à dire. Indigènes, c'était plus simple. Donc, mon père était directeur d'une école de garçons près de Tlemcen, à Enaya, dans un village. C'était une grande école. Et sur le fronton de l'école était écrit en lettres de pierre « École de garçons indigènes ». Et à l'indépendance, indigène a a été rayé. Et j'ai une amie qui a pris des photos à ce moment-là. Et j'ai la preuve. D'une part, que c'était école de garçons indigènes, parce que quand j'en parle, personne ne me croit. J'ai la preuve aussi, avec cette photo, que le mot indigène a été rayé, mais vraiment effacé, quoi. Avec une pierre, probablement, à l'indépendance de l'Algérie. Donc il y avait école de garçons, et puis indigène avait disparu. Alors j'ai envie de parler de ces scènes-là, qui pour moi sont comme des scènes primitives, mais il y avait, enfin, j'en parle de manière obsessionnelle dans les récits que je fais de mon enfance. Et c'est pour cette raison que j'ai envie d'en parler. C'était cette école du village, cette école de mon père, où les élèves étaient tous des garçons d'une part et d'autre part des garçons indigènes, c'est-à-dire des garçons arabes. C'est une région arabe, c'est pas une région kabyle, ni berbère. Il y avait beaucoup d'élèves, il y avait beaucoup, hein. Il y en avait plus d'une centaine, bien plus d'une centaine. Et avec mes sœurs, j'ai dit tout à l'heure que nous allions toutes les trois à l'école de filles du village européen. Il y avait une partie européenne et une partie indigène. Il y avait le village arabe et le village européen français, avec l'église, le dispensaire, le kiosque pour le 14 juillet, les écoles de filles et de garçons, où les filles et les garçons européens, donc français, allez, ils n'allaient pas à l'école de garçons indigènes, puisqu'ils ne l'étaient pas. Et donc, tous les jours, avec mes sœurs, on montait une côte en terre, elle n'avait pas encore été goudronnée, vers le quartier européen pour aller à l'école de filles. Et tous les jours, les garçons qui attendaient l'ouverture de l'école et le sifflet du maître pour entrer dans l'école nous attendaient sur le chemin de terre, derrière ou abrités par les arbres d'une allée qui descendaient vers la gare. Et on était habillés, et j'ai encore des photos, on était habillés comme des petites Françaises, puisqu'on avait une mère française. C'était une mère française de France, attention. C'était pas la même chose que française d'Algérie. Les vraies Françaises, c'était les Françaises de France. Mais pour les Françaises d'Algérie, les Françaises de France étaient des étrangères. Et donc, on était habillées comme des petites filles, joliment habillées, un peu courtes, des jupes un peu courtes. Ce n'était pas les sarouels que portaient les petites filles arabes. Et on avait des rubans écossais dans les cheveux. Et ça devait paraître grotesque, ou peut-être exotique, je ne sais pas, à ces garçons-là, qui étaient habitués aux vêtements de leurs sœurs, avec le foulard, naturellement, les sœurs. Nous, on n'avait pas de foulard, on avait ces rubans écossais. Je crois que ma mère ne se rendait pas compte de l'effet que ça pouvait faire sur des garçons. Voir des cuisses blanches de filles françaises, étrangères, et que ces filles soient de surcroît les filles du directeur, dont on savait qu'il était arabe. C'était mon père. Et donc il nous attendait, et quand on passait, Il poussait des hurlements, des insultes verbales et des insultes physiques. Enfin, physique, ça veut dire qu'ils avaient des gestes obscènes contre nous. Je ne vous les montrerai pas là maintenant. Je pourrais, mais je ne le ferai pas. Mais vous devez les connaître. Ça, c'était clair. Et il courait vers nous avec ses gestes et ses insultes. On ne les comprenait pas, mais on comprenait que c'était sexuel. Ils avaient ce mot qui a traversé la Méditerranée avec l'immigration algérienne, pas seulement algérienne d'ailleurs, de l'ensemble du Maghreb. Vous savez quel mot? Non. Nick. Et donc il criait ces mots-là. On ne savait pas très bien ce que ça voulait dire. Bon, et on était là comme ça, serrés toutes les trois. Et on n'en a jamais parlé à mes parents. Jamais.
Et comment ça? Parce que tout justement ces mots obscènes, puisque vous ne parliez pas l'arabe, vous ne comprenez rien que les mots obscènes, apparemment. Puisque, pourquoi est-ce que vous n'avez jamais raconté ça à votre père?
Parce qu'on savait bien que ça ne lui plairait pas. On ne voulait pas le blesser. Je pense que c'est ça, vraiment. Hein, je pense. On ne voulait pas le blesser. Et d'une certaine manière, c'était des enfants de son peuple qui prononçaient ces mots-là contre ses propres filles. Et quand ma mère a lu mes livres, parce que mes parents étaient tous les deux instituteurs, ils savaient lire, ils ont lu en général mes livres, on n'en a jamais beaucoup parlé. Mais ma mère m'a dit, quand même, tu racontes toujours cet épisode et tu ne nous en as jamais parlé, pourquoi? Alors je lui ai dit, c'était trop compliqué parce que je ne voulais pas les mettre en accusation, je ne voulais pas mettre ma mère en accusation parce qu'elle nous habillait d'une manière provocatrice pour ses garçons. Et puis, j'en ai jamais parlé avec mon père. C'est ma mère qui m'a dit. Pourquoi tu répètes ça? Pourquoi tu répètes ces scènes-là? J'ai dit, c'est parce que j'ai besoin de les répéter. Et une de mes sœurs m'a dit, ce que tu n'as pas compris, c'est que ces garçons voulaient nous séduire. Je dis, ah.
Argumentation tordue.
Non, pas tordue. Elle avait raison. Je pense qu'elle avait raison. On peut chercher à séduire par la violence. Mais oui, bien sûr. Aujourd'hui, on met ça en cause, évidemment. J'ai écrit un essai qui s'intitule « On tue les petites filles ». Donc je le sais. Mais oui, elle avait en partie raison. Et ça m'a fait réfléchir sur le rapport à ces garçons-là, à cette époque-là. Voilà. Ça, c'est une partie de mon enfance importante qui est dans mes livres et un peu répétitive, me disait ma mère.
Le livre « Je ne parle pas la langue » de mon père commence par un souvenir. Le nom de votre père figurait sur une liste noire. Et un de ses amis, instituteur aussi et écrivain, a été tué le 15 mars 1962 au fond de la classe contre le mur. Votre père a été mis en prison à Orléansville et je vous prie, Léla Sebar, de lire un passage qui révoque cette période.
Mon père en prison, arrêté par l'armée de la France, est un terroriste. Un criminel, il n'a pas parlé, peut-être à sa femme, il ne nous a pas dit ses prisons. Plus tard, des années plus tard, on saura qu'il a appris à lire et à écrire à un jeune détenu qui partageait sa cellule dans la prison militaire de la ville la plus chaude du pays. Si la terre avait tremblé une fois encore, les prisonniers se seraient enfuis et mon père serait revenu avec son disciple dans la maison d'école où l'attendent sa femme, la française à l'index et ses quatre enfants. Si j'avais interrogé mon père sur le jeune insurgé analphabète, que m'aurait-il dit ? Qu'il était semblable à tous ses fils d'ouvriers agricoles, des domaines encore prospères, à ses fils de pauvres, qui un jour avaient déclaré la guerre à ceux qui opprimaient les pères, avilis, impuissants, et auxquels il rendait l'honneur perdu. Ils ne mourraient pas tous dans les djebels, les maquis, les ratissages. Les vivants vengeraient les morts. Peut-être allait-on le transférer dans une autre prison, un camp de la mort. Avait-on torturé un frère, un cousin, sous ses yeux, comme on l'avait fait pour mon père, je l'ai appris par ma mère, un peu après sa mort. Mon père a-t-il cherché à savoir quel a été le destin de celui qui aurait pu être son jeune frère ? Je ne le crois pas. Il n'en a rien dit. Ai-je posé la question ? Je pense que non. Aujourd'hui où j'écris, je me dis une fois de plus que je ne saurais rien, que je n'ai pas su entendre mon père dans la langue de ma mère, ou que, dans sa langue, il aurait parlé plus volontiers de sa guerre, de son peuple. Il devait considérer, et pas seulement à ce moment précis, que nous étions, nous, ses enfants, des étrangers, les filles et le fils de l'étrangère. Je me demande, retardataire définitivement, si mon père, dans le silence de sa langue, obstiné, volontaire, n'a pas cherché des années durant à résister, à nous résister, nous, ses enfants et sa femme, étrangers, chaque fois dans le quartier populaire, indigène, musulman, où il était le maître absolu de l'école et le bienfaiteur des pères, mères, filles et fils de son peuple, de sa langue, de sa terre. Et nous, enfermés dans la citadelle de la langue française, de la République coloniale, les murs n'arrêtaient pas l'écho malfaisant des injures proférées par les garçons. La langue roulée, hurlée, violente, obscène. Ils auraient été les fils de mon père avec une autre femme, la cousine que sa mère lui avait réservée. Voilà, là, je m'arrête, là.
Et je pose une question. Vous écrivez que vous n'êtes pas sûr d'avoir demandé à votre père de vous parler de son emprisonnement. Et était-il bien nécessaire de s'avouer en quelque sorte et de se rappeler aussi que le souvenir reste souvent flou malgré tous les efforts d'être précis.
Là, vous parlez de qui ? De mon père ?
Non, de vous.
De moi ?
De vous en tant qu'écrivaine, oui, qui essaye de se souvenir d'être précis, qui évoque ces images et puis qui n'est pas sûr d'avoir demandé... d'avoir posé des questions au père.
Oui, je parle aussi souvent des silences, des silences de mon père. Et ces silences sont des silences qui lui appartiennent, que j'ai toujours tenté d'entendre par effraction, et je n'ai jamais réussi. Je me rappelle, je téléphonais à mon père régulièrement quand il était en France. Il avait quitté l'Algérie et chaque fois, je lui demandais ou je lui posais des questions auxquelles il ne voulait pas répondre. Il ne voulait pas. C'est comme les questions que je pose régulièrement à mon frère aîné qui a fait la guerre d'Algérie, contre son gré d'ailleurs. Et il me dit toujours non. Toujours non. Non, non. Je lui dis, mais enfin, tu as des enfants ? Ils sont en droit de savoir. Il me dit non. Il me dit, j'ai tout détruit, j'ai tout brûlé. Ça ne m'intéresse pas d'en parler. À qui que ce soit. À mes enfants et à toi non plus, naturellement. Mais je n'ai pas encore désarmé.
Je veux dire, est-ce que vous avez mis en question le choix du père de s'exiler
dans son pays de naissance et de s'enfermer dans un mutisme. Je veux dire, si une fille est en face de lui, elle n'arrête pas de poser les mêmes questions. Il y a un moment où peut-être il aurait pu abandonner.
Je posais ces questions parce que mon père n'était pas à côté de moi. Il habitait Nice, moi j'habitais Paris. Et donc à distance et par téléphone, je pouvais poser des questions qui, pour mon père, étaient inacceptables. Mais quand les parents meurent, on vide la maison. Donc on a dû vider la maison de Nice et il y avait un paquet de lettres que mon père avait envoyé à ma mère et de ma mère à mon père quand il était en prison à Orléansville pendant la guerre d'Algérie. Ce paquet de lettres, ma mère l'avait gardé, bien sûr, et avec l'accord de mon frère et de mes sœurs, j'en ai été d'une certaine manière l'héritière. Et un jour, je me suis dit, je vais les lire. Et ça a été très tard, ça a été très tard. Je l'ai lu pour écrire ce livre-là, Lettre à mon père. Et j'ai eu raison. Mon frère a lu le livre, mes sœurs aussi. Et ils n'ont fait aucun reproche. Donc je me suis dit, j'ai eu raison de faire un coup de force. Parce que c'était un coup de force. Je leur ai promis que je scannerais ces lettres, ce que je ne sais pas faire d'ailleurs. Je suis une analphabète numérique depuis toujours, et je ne l'ai pas fait. Personne n'a réclamé. Je me suis dit, bon, je ne le fais pas. Et jusqu'à présent, quand même, je me sens un peu coupable. Je le ferai. Enfin, je demanderai à mon mari, qui est très performant dans ce domaine, de le faire pour moi. Il le fera.
Je vous demande de lire encore une page, mais une seule page, qui dit vos efforts pour comprendre où vous viviez en Algérie. C'est la page 34, dans d'autres villes, petites et grandes.
Dans d'autres villes, petites et grandes, Oran, Aflou, Batna, Sidi Bel Abbès, on nommait village nègre pour le distinguer du centre européen, le bas quartier pauvre musulman, où habitait ce que la misère, d'année en année, avait expulsé des campagnes stériles. Les familles vivaient dans des maisons surpeuplées qui n'étaient plus des maisons. Je le découvre bien plus tard en déchiffrant les légendes de cartes postales coloniales, d'une brocante l'autre sur les marchés de France. Je recherche obstinément un nom familier, un signe de la colonie Algérie, un paysage d'enfance. Les lettres sont parfois effacées, l'une d'elles illisible. Je reconstitue Sidi Bel Abbès, cimetière du village nègre, où, au-dessus d'un groupe de maisons basses, autour du minaret de la mosquée, Batna, le village nègre, vue prise de la route de Lambèze. Lambèze, le terrible bagne de la colonie. Dans les récits de route d'Isabelle l'Algérien, Isabelle Hébérard, j'ai vu les forçats menés au fouet pour la construction des routes qui faciliteraient la pacification des territoires rebelles. Longtemps après, je comprends, de l'autre côté de la mer, que j'ai toujours habité dans une sorte de quartier nègre qui ne portait pas ce nom-là, disparu après la guerre de libération. Comment les nomme-t-on aujourd'hui, dans l'Algérie libre, ces quartiers populaires, misérables, surpeuplés, qui ont donné asile aux barbares et produit en leur ventre ceux qui ont égorgé au nom de Dieu, un dieu de la vengeance, de la revanche des pauvres sur les nantis, un dieu des larmes taries, de la violence populaire, injuste et juste, sans pitié ni discernement. Qui aura gardé la mémoire de ces noms-là, maudits, oubliés dans les livres et la parole? Lorsque je reviendrai, je ne le saurai pas, et je ne retiendrai pas les mots de la langue étrangère. Je marcherai en aveugle, ne sachant lire le sens des lettres arabes, que ne redouble pas la langue coloniale, effacée par la volonté officielle.
Dans ce passage, le nom d'Isabelle l'Algérien est mentionné. C'est un surnom d'Isabelle Eberhardt, une aventurière franco-suisse qui arrive en Algérie en 1897 avec sa mère qu'elle accompagne. Les deux se sont convertis à l'islam. Isabelle apprend l'arabe. Elle a 20 ans quand sa mère meurt. Elle reste en Afrique du Nord. Quel rôle est-ce qu'elle joue pour vous? Qu'est-ce qui vous attire dans la personnalité d'Isabelle Eberhardt qui est morte accidentellement dans un oued, dans une crue d'un oued à Ensefra?
Oui. Elle avait... Pour moi, c'est une figure iconique. Et je l'ai aimée, je l'aime toujours, elle est toujours là avec moi, et je m'aperçois que j'en parle tout le temps, dans ce que j'écris, elle est là, elle apparaît, je ne décide pas qu'elle sera là, mais elle est là, et elle est là comme fugueuse, rebelle, anticonformiste, et elle est là aussi parce que elle a appris l'arabe que je n'ai pas appris. Elle s'est convertie à l'islam. Moi, j'ai jamais eu ce désir-là. Je suis une mécréante absolue, donc ni Dieu ni maître.
Mais elle représente aussi peut-être... L'idée ou la possibilité d'un exil heureux, oui. Non ?
Oui, oui. L'Algérie a été son exil heureux. Et elle était extrêmement libre, comme aucune femme de cette époque ne pouvait l'être. Elle était étrangère, donc elle avait cette permission quand même en Algérie. Et puis, les Algériens... savait qu'elle était convertie à l'islam. Ça, c'était un atout, hein, en tout cas pour les indigènes. Pour les colons et les Français, non. Elle détestait de la population européenne en Algérie parce que, en outre, elle a épousé un Algérien, même si cet Algérien était un spahi. Donc Isabelle Eberhardt a épousé quelqu'un qu'elle n'aurait pas dû épouser. Enfin, pour la colonie.
En tant qu'écrivaine, elle a été découverte à peu près 70 ans après sa mort, donc au milieu des années 70. Les carnets, le journal qu'elle a laissé, est-ce que ça vous a aidé ou est-ce que vous vous êtes servi de ces carnets pour reconstruire un peu aussi les lieux que vous aviez habités en Algérie?
Je ne m'en suis pas inspirée, non. Mais ils m'ont accompagnée comme Isabelle Eberhardt m'a accompagnée. Elle m'accompagne toujours, elle est toujours là. C'est une amie fidèle. Plus fidèle que les vivants, et je l'aime.
On n'a pas encore parlé du livre « Lettres à mon père », on va le faire maintenant.
Mais après avoir écrit « Lettres à mon père », parce que je me suis dit, si je relis la lettre au père de Kafka, je vais être complètement... inhibé, quoi. Et oui. Et j'ai relu la lettre de Kafka, la lettre à mon père, lettre au père, ça s'appelle lettre au père en français, en tout cas. C'est abominable. C'est abominable. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez dû la lire en allemand, je ne sais pas si en allemand c'est pire qu'en français, mais cette haine du père, j'ai eu raison de ne pas le lire en même temps que j'écrivais ma lettre à mon père.
Votre lettre, elle fait 140 pages, c'est un grand monologue, nourri de beaucoup d'émotions, la tendresse surtout pour l'être qui a disparu en 1997. Elle est très très présente, puis la curiosité et aussi la frustration, je trouve. Cette lettre qui a été commencée le 16 mars 2020, c'est-à-dire la veille du jour où le gouvernement français a imposé certaines règles pour mieux contrôler la pandémie. Dans cette lettre, vous donnez la parole au père et vous imaginez ses répliques, les fuites aussi. Et vous le décrivez comme un homme très direct qui a toujours su facilement se dérober aux questions pertinentes, c'est-à-dire les questions pertinentes de vous. Est-ce que cette forme, vous l'avez trouvée facilement, puisque c'est un dialogue ou un monologue intérieur qui, parce que c'est répétitif, il y a des invocations qui, pour moi, ressemblent aussi un peu à un chant, en quelque sorte, cet appel?
Oui. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire cette lettre. Et quand je l'ai eue, enfin, quand j'ai décidé que c'était fini, j'ai eu beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, quoi. J'aurais eu envie que ça dure, ce dialogue fictif avec mon père. Et quelquefois, j'écris souvent dans les cafés, moi. Et je revenais d'un café de mon quartier, qui s'appelle la Butokai, et je revenais chez moi dans l'idée que j'allais téléphoner à mon père. Mais vraiment, vraiment, c'était pas... Et bon, quand j'arrivais chez moi, c'était fini. Je ne pouvais plus rêver que j'allais l'appeler. J'ai eu raison de l'écrire.
Je me suis dit que c'est peut-être la forme la plus réconciliée aussi, de faire le bilan des questions qui vous intéressent, qui vous tracassent peut-être aussi, par période. Donc c'est réussi.
Je ne sais pas ce que mon père en pense. Je ne saurai jamais, mais je peux l'inventer. Hein ? Je peux l'inventer. Mais je n'écrirai pas de suite à cette lettre, non. Non. Je voudrais écrire, non pas une lettre à ma mère, mais écrire un livre sur ma mère, maintenant. Parce qu'on m'a beaucoup dit, tu ne parles que de ton père et ta mère. Je dis, ben, lisez ce que j'écris, je parle aussi de ma mère dans ce que j'écris. C'est pas... Elle existe, elle est là aussi. Et j'écrirai le grand roman d'amour de mon père et de ma mère. Oui. Oui, oui. C'est pas le plus facile.
La lettre, elle commence par le souvenir d'une perception très sensorielle à travers la vitre d'une voiture. L'œil de la petite fille que vous étiez perçoit la silhouette des femmes au pas pressé, le corps voilé. On ne voit souvent qu'un seul œil. Et puis, on lit « Je les ai vues, ces femmes-là, sur carte postale. Jeune fille arabe, dans la vie de la colonie, jamais. » Et dès le début, je trouve que le ton, il est marqué. C'est un sombre constat qui, pour moi, apprivoise le regret, l'étonnement et la déception, sinon peut-être aussi la colère retenue face au fait que vous n'avez guère pu connaître les femmes de la famille paternelle.
Alors cette relation aux femmes, on a parlé d'Isabelle Hébérard tout à l'heure. Là, je les appelle les femmes du peuple de mon père. Je ne les ai pas connues. Je ne leur ai jamais parlé. Et pour cause. Elles ne parlaient pas le français, elles n'étaient pas allées à l'école, et moi je ne parlais pas l'arabe. Donc, il n'y avait aucune communication possible entre elles et moi. Et d'une certaine manière, je les ai toujours cherchées. Et quand je suis venue, enfin quand j'ai vécu pour le reste de ma vie en France, je suis allée dans les quartiers de banlieue et dans les squares en particulier, parce que ces femmes ne sortaient pas de chez elles, hein, sauf pour aller au marché et pour s'occuper de leurs enfants, les femmes algériennes. Et elles allaient ensemble dans les squares. Et elles se retrouvaient là, elles parlaient entre elles, les enfants étaient là, évidemment, hein, puisqu'elles sortaient avec les enfants pour les sortir. Et moi, j'allais, c'était en banlieue parisienne, à La Courneuve, à Aulnay-sous-Bois, etc. Et je m'asseyais à côté d'elles, et je les écoutais sans comprendre quoi que ce soit, mais elles avaient des gestes que je reconnaissais sans les avoir connus, sans avoir jamais vécu dans la maison de ces femmes algériennes. Et j'ai beaucoup aimé ça, d'être là, de les écouter, de les regarder, de les observer. Et j'ai écrit un autre roman qui s'appelle « Parle mon fils, parle à ta mère ». Et c'est une mère algérienne naturellement qui vit en banlieue, en grande banlieue, et qui n'a pas vu son fils depuis longtemps. Et il revient dans la maison de sa mère et ils parlent ensemble, tous les deux. Je me rappelle avoir parlé de ce livre, qui est écrit en français, c'est la seule langue que je connaisse et que je puisse écrire. Dans la salle, il y avait un certain nombre d'Algériens, et on m'a dit, mais la mère qui parle avec son fils, c'est vous ? J'ai dit non, non, ça ne peut pas être moi, ça ne peut pas être moi. Eh bien, ils m'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Hein? Non, mais c'est étrange. Ils ne me croyaient pas. Je leur disais, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est une autre femme. C'est la mère de ce fils-là. C'est pas moi. Ils m'ont pas cru.
En écrivant, vous avez imaginé, vous avez inventé aussi une famille algérienne, non ?
Je dirais que j'ai fabriqué, imaginé une sorte de tribu qui n'a jamais existé. Oui, j'avais besoin de ça pour approcher mon père, pour approcher l'Algérie, pour approcher ce continent dont je ne savais rien. Et ça m'a permis de le voir, de l'entendre, sans lui parler. Et ça, c'est le tour de force de la fiction. C'est ça qui est bien. Et ça, c'est un bonheur. Pour moi, c'est un bonheur d'écrire de la fiction comme ça. Sans Dieu ni maître, encore une fois. J'écris ce que je veux. C'est tout.
Et c'était c'était le 28e épisode du podcast franco-allemand Litteramour. L'entretien avec l'écrivaine Leila Sebar a été enregistré à la Freie Universität Berlin. Pour mon prochain épisode, j'inviterai le journaliste David Dambitsch. Il a retracé l'histoire d'une famille juive du 19e siècle jusqu'aux années 1970 et publié le livre « Der blaue Koffer der Familie Zamosch », la valise bleue de la famille Zamosch. Je suis Sigurd Brinkmann, je vous souhaite de bonnes lectures et me réjouis de vous retrouver bientôt.